Alors, j'espère que tout le monde est au parfum de ce qui a été vu jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, nous avons à regarder les différents degrés. Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, je ne vais pas réexpliquer. Je ne vais pas réexpliquer, ce n'est pas la peine. Mais nous avions vu la dernière fois comment on pouvait éventuellement reconnaître le degré de profondeur dans l'ordre de l'amour lorsque on a une maturité affective qui s'arrête, j'allais dire, au point de vue du beau. Si je comprends le beau et le bien, je n'ai pas dépassé le quatrième degré de profondeur de l'amour entre l'homme et la femme. Vous voyez bien, Eros. Attention, Eros, c'est un terme grec qui ne veut pas dire érotique, hein, mais qui veut dire ce qu'il y a de beau intérieurement dans l'amour. Confondre le beau et le bien, c'est une preuve d'une maturité affective qui ne dépasse pas le point de vue du corps. Autrement dit, le plafond jusqu'où vous allez dans la profondeur de la relation mutuelle ne dépasse pas le plafond de la communion entre des vivants de vie végétative. Deux fleurs qui sont comme. C'est beau. Bon. Très bien. Je ne reviens pas dessus, ok. L'eau, l'air, la terre et le feu. Les quatre composants du corps. Bon, maintenant, nous avons vu la dernière fois les 11. 5 à 11. Pardon, 5 à 16. 5 à 14, pardon. 5 à 15. Les 11 degrés de l'amour qui va s'enraciner jusque dans le point de vue d'un amour que je vais ressentir très très fort. Je tombe dans amoureux, c'est un coup de foudre, je ressens très très fort. Cette passion amoureuse va être mêlée petit à petit avec quelquefois des sentiments d'angoisse, de haine, de peur, d'audace, etc., etc., vous savez. Il y a donc 11 étapes. C'est le point de vue donc du psychologique. Lorsque nous aimons dans un vécu psychologique, nous passons par ces étapes. Je rappelle lesquelles elles sont rapidement. Amour, pas dans l'ordre parce que haine, désir, tristesse, peur, puis audace, colère, joie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, il y en a encore pas. Amour, haine, espoir et désespoir ici. C'est tout à fait normal que quand la relation évolue, s'approfondit, je passe par une étape où il va y avoir, par exemple, au point de vue de la fille, une barrière. C'est tout à fait normal. C'est bien mieux que quand on est dans un état de passion amoureuse. C'est plus profond. Ce que nous avons vu à donner, c'est un exemple. Mais il y a aussi des états d'agressivité, colère, et des états d'agressivité qui montrent qu'on est plus enraciné dans l'eau, profondément, du point de vue psychologique. Hein, je suis tout à fait d'accord. Hein. Mais il y a des degrés de profondeur dans le point de vue psychologique. Hein. C'est quand même mieux que le point de vue physique. C'est ça. C'est plus profond. Parce que c'est du vécu. Et là, je suis obligé de constater que l'autre a pénétré dans mon vécu. comme c'est un étranger, il est normal qu'il y ait des phénomènes de colère, qu'il y ait des phénomènes de tristesse, qu'il y ait des colères, des phénomènes de haine. C'est normal. C'est tout à fait normal, mais ce sont des réactions animales. Et il est évident que si on s'arrête à ce qu'on ressent, je ne dépasserai pas le point de vue de la maturation affective du point de vue de l'animal. Il est bien évident qu'il faut que je crève au minimum ces 15 premiers plafonds. En général, 7 à 12 mois. Pour des gens qui y mettent toute leur vie, à condition qu'on ait ici respecté les lois de la nature, hein, comme pour le travail de la vigne, hein, et qu'on ait coupé les sarments bas. S'il ne se coupe pas les sarments du bas, la chaise ne monte pas. Donc les plafonds 5 et 1 ne vont pas monter très vite. Ça durera 4 à 10 ans. Mais s'il vit dans la chasteté, il n'y a évidemment absolument pas beaucoup de chances que vous restiez plongé au niveau du 7e degré, par exemple. Ça ira plus vite. 9 mois à peu près. Vous comptez 9. Maximum. Vous vivez d'une part le point de vue de la sagesse, d'autre part le point de vue de la tempérance. Quand je parle de la tempérance, c'est quelque chose qui relève, comme je disais tout à l'heure, de la langue, de la curiosité, etc. Et du point de vue de l'esprit de virginité. Donc l'esprit de virginité, c'est quand on commence à avoir des relations donc fraternelles. Voilà. Alors, c'est ça les sarments, n'est-ce pas? Les sarments du bas se coupent, s'il y a ça, alors l'amour s'approfondit. Je crève les plafonds successifs. Nous en étions arrivés au 15e, et ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est très très un peu frustrant, et j'en ai plus. C'est peut-être la partie la plus frustrante de l'analyse des 33 degrés dans l'ordre de l'amour entre l'homme et la femme. C'est la partie la plus frustrante parce que ce sont les. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Ce sont des voies de garage. Ce sont des. Si vous voulez, c'est des bassins de remplissage. Vous voyez? Je ne sais pas comment expliquer ça. Un petit peu comme si c'était, vous voyez, une espèce de colonne. Alors, l'huile de l'amour monte, n'est-ce pas? Petit à petit. Hein, elle monte encore. Et puis à un moment, il y a des bacs de remplissage, c'est ça? C'est ça? Voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et puis après, ça remonte encore. Voilà. Quelque chose comme ça. Je m'excuse très mal. Hein. Très bien. Alors quand ça arrive ici, hop là. 1, 2, 3, 4. C'est pas tout à fait dans la colonne de l'amour, mais ce sont des étapes repérables qui sont des déviations. Qui sont des déviations. Pas tout à fait des déviations, parce que c'est bien nécessaire pour atteindre le premier degré de l'amour humain. Tant que vous n'avez pas atteint ici le fameux 20e degré dans l'ordre de l'amour, il n'y a pas d'amour humain. Que personne ne se fasse quelconque illusion sur ce point. Il y a une loi naturelle de l'affectif et c'est absolument clair, c'est ça que je dis à quelqu'un, quelque chose qui est très troublant, on dit les statistiques par exemple, les gens par exemple qui sont fiancés et qui consomment le mariage, les gens concubinage, je ne sais pas quoi, rien, c'est 90% du divorce. Ce n'est pas 50% ou 40%, 98%. Et les 2% qui ne divorcent pas, c'est parce que il y a eu un accident. Le gosse qui est mort, un choc, ça remet complètement les pendules sous un autre rapport. Et du coup, ça marche. Mais si je n'ai pas respecté, si vous voulez, les gens, c'est forcé, ça ne peut pas marcher. C'est des lois naturelles, je pourrais me donner 800 exemples. C'est pas une question, c'est bien, c'est mal, pour castration, etc. L'Église, qui essaye de frustrer, de complexer. Tu veux l'air de complexer, non? Pourquoi tu me regardes comme ça? Alors, ça c'est important, le fameux vingtième degré. Il faut absolument repérer. Si j'ai atteint ce vingtième degré dans l'ordre de l'amour lorsque nous relations d'amitié avec les femmes, je ne suis pas capable, c'est que je n'ai pas atteint point à la vie. Alors, au travail, les mecs. Alors, d'où l'importance de cette petite tableau, avec des petits critères de discernement. Donc on a vu les degrés d'ordre psychologique. Je crois que c'est vous. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Peut-être que vous avez des questions à poser par rapport aux deux dernières fois. On va bien regarder ça. Je ne sais pas si donc tout est limpide pour ceux pour vous. Bien, donc on va regarder les nouveaux aspects. On avait terminé grosso modo par, ça dépend, hein, quelquefois, c'est le terme du 15e degré dans l'ordre de l'amour, ça dépend, hein. Quelquefois c'est la colère, quelquefois c'est la tristesse, quelquefois c'est la joie. Tristesse, colère et joie. C'est souvent la colère. C'est-à-dire des rapports d'agressivité. Ou si vous préférez, le climat de gens qui sont amoureux, dès qu'ils sont ensemble, c'est l'agressivité. Voyez bien. Quand vous l'aimez, vous n'êtes pas agressif. Quand vous l'aimez, vous n'êtes pas agressif. Quand elle vous aime, vous n'êtes pas agressif. Il n'y a pas d'agressivité. Mais lorsque vous êtes ensemble et qu'il y a une relation concrète, apparaît l'agressivité. Est-ce que vous voyez la différence? À ce moment-là, vous êtes probablement au 15e degré. Or, la très grande majorité de la génération d'aujourd'hui, n'arrive pas à crever le 15e plan. Autrement dit, si vous avez une façon de mariage, par exemple, eh bien, le mariage est invalide ce printemps. Puisque Dieu ne peut pas bénir. Vous connaissez ça. Pour qu'il y ait sa commande de mariage de manière indélébile, comme on dit, hein, c'est quoi comment le sacrement est indélébile, c'est ça qu'on dit. Le terme. Indissoluble.
Et la marque de l'église.
C'est pas dans le cœur. Indissoluble. Donc il n'y a pas d'indissolubilité, mais il n'y a pas de sacrement. S'il n'y a pas la matière du sacrement, c'est-à-dire que vous n'avez pas le 20e degré, pas de matière du sacrement. Et donc il n'y a pas d'indissolubilité dans l'ordre. C'est plus du vent. J'avais lu une petite statistique qui était montrait que les mariages qui avaient été faits dans les années 70, une petite enquête comme ça, a été fait à 60% au minimum de mariages invalides, tout ce qui était passé à l'église. On ne regardait pas si j'étais divorcé ou pas divorcé, mais on regardait avec ceci. 60 à 70% de mariage de la vie. Pour une maturité. C'est repéré, hein. C'est enfantin repéré, moi. C'est vrai quand je prépare les séances. Je vois tout de suite son frère. Je vois que son tout proche ne voit pas. Non, mais je dis personne, bien entendu. Hein? Alors, donc c'est quand même quelque chose de très très important. Hein? Bon, alors maintenant, ça c'était l'introduction. Maintenant, on va mobiliser. La colère, c'est quand même cette relation d'agressivité, montre qu'il y a quelque chose qui relève en nous d'une aspiration à être ajusté. La colère est toujours une réaction où je ressens qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté. Il y a quelque chose d'injuste. Je ressens que dans la relation, il y a quelque chose qui est injuste. Je le ressens, c'est peut-être pas vrai. D'ailleurs, ordinairement, c'est pas vrai, évidemment. C'est évidemment pas vrai. Mais je le ressens. Mais je le ressens très fort, aussi fort que je ressentais le coup de poudre. C'est ça qui est terrible. C'est très difficile de se débarrasser de cette impression, parce qu'elle est très forte. Elle est très psychologique. Elle est très sensible. Elle s'impose à nous. Donc je crois, j'ai une impression d'une injustice. Vous savez, la colère, c'est quand dès que tu as face à quelque chose qui fait du mal, c'est injuste, l'autre il est là, mais il fait du mal, c'est injuste au fond. Tu donnes, puis lui, non, enfin, c'est pas l'impression, celui qui donne, il dit pareil. Donc, c'est ça qui est. Mais tu ressens très très fort. Vous voyez, vous comprenez. Alors, cet appel, c'est la passion, c'est pour ça qu'Aristote dit que la passion d'agressivité et de colère, sur les 11 passions, c'est la passion la plus noble. On en a 15 aussi. C'est la passion la plus noble. Tiens, voilà. Le petit travail du pareil, vous prenez le traité des passions sur le sommet d'action. Alors là, ça, c'est génial. C'est génial. C'est absolument génial. Alors là, c'est la passion qui est d'amour, c'est une passion d'amour très enracinée. D'ailleurs, c'est clair parce que. Alors du coup il s'en va au travail, il ne revient pas, on se voit moins, bon. Et pourtant, j'ai besoin qu'il soit là, mais dès qu'il est là, voilà, c'est encore la colère, c'est marrant dans tout, il y a des gens qui ont cette colère, ce sentiment d'injustice, qui ont besoin de cette relation, n'est-ce pas, c'est marrant dans tout, et ils sont victimes en plus. Et pour l'autre victime, c'est très désagréable. Et réciproquement. Voilà, ça c'est quand même quelque chose de très. Mais en même temps, ça c'est le côté désagréable, parce que dans la passion a quelque chose de désagréable pour l'homme, la passion pour l'animal a quelque chose d'agréable, même de colère et d'agressivité. C'est vrai que les animaux c'est pas pareil. Il y a un phénomène d'agressivité, mais c'est pas désagréable. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas ce sentiment d'injustice. C'est qu'en dessous de la passion, il y a le sens de l'injustice. Donc, vous savez, quand vous sentez quelque chose qui est injuste et qui vous plaît, vous vous mettez en colère pour enlever l'injustice. C'est ça la colère. La colère, c'est si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui est injuste, vous sentez que vous allez avoir la force de l'enlever. Si vous n'avez pas la force de l'enlever, ce sera la tristesse. Vous sentez que vous n'avez pas en vous les ressources pour enlever cette injustice. Ce sera la tristesse. Mais on meurt quand il est, parce que c'est vraiment important. Mais en même temps, j'ai besoin. C'est l'autre, c'est elle qui habite toutes mes pensées. Même si c'est. Je la connais. Mais c'est elle. Il n'y a qu'elle. Je pense qu'elle. C'est ordinaire. Et réciproquement. Je pense qu'à lui, à personne d'autre. Les autres ne m'intéressent pas du tout. Justement, je vais vers les autres, si je vais vers les autres, c'est pour oublier ça, mais j'y arrive pas. Je pense que. Alors cette colère, c'est l'appel à la justice. Et la justice, c'est quelque chose qui relève donc d'un dépassement du point de vue psychologique, parce que ça implique quand même déjà un premier discernement. C'est une soif à être ajusté, non pas à ce que je ressens, mais à la réalité de l'autre. Ah ah, donc déjà là, la colère va permettre de passer déjà à une relation qui sera de type fraternel. Avant de retrouver au 20e degré une relation de type pontal. C'est-à-dire impliquant la différenciation sexuelle. C'est-à-dire impliquant le point de vue de l'homme et de la femme. Et donc le point de vue spirituel, le point de vue pneumatique, le point de vue de l'intelligence, si vous voulez. Le point de vue de l'intelligence. Le point de vue de l'origine et de la fin, le point de vue donc de l'état et du cœur profond, enfin, de la volonté profonde. Là. Et avant, il faut que l'autre soit voulu pour lui-même en tant qu'autre. C'est ça toute cette justice, cette espèce de fraternité. Alors là, ces relations fraternelles vont, vous voyez bien, comme c'est pas vraiment quelque chose. On n'est pas encore prêt parce qu'on est encore trop lié au phénomène passionnel. On va avoir besoin, c'est la nature qui veut ça, on va avoir besoin de se reposer un instant, pendant un certain temps, dans des relations qui vont avoir leur centre de gravité dans les degrés suivants. Bon, 16e, 17e, 18e, 19e. Et aujourd'hui, le final, c'est le 21e. Alors, alors, je crois que la première chose, qu'implique la colère qui est ici dans animal, colère psychologique, c'est qu'elle peut se muer en colère humaine. C'est-à-dire que la colère psychologique va me faire apparaître en moi, grâce à l'amour, une force intérieure. Cette force intérieure va me permettre de me vaincre moi-même dans ma dimension animale, c'est-à-dire psychologique, ce que je ressens, pour retrouver et être capable de trouver dans l'autre quelque chose de réel. Et dans l'autre, je vais trouver quelque chose de réel, 16e degré, dans une relation que j'ai avec lui, et qui sera en réalité une relation de force. C'est la relation artistique. Je vais vous expliquer un tout petit peu. Elle est très facile à reconnaître. Très très facile. La relation artistique, c'est, pour prendre des petits exemples comme ça, hein. C'est qu'on est fiancé, tout ça, on n'est pas fiancé. Marquez bien qu'ici, c'est pareil pour l'amitié comme ça, par exemple, je suis une amitié d'une demi-amitié, l'amitié simple, qui est entre femmes, entre un père et son enfant, enfin bref, toutes les amitiés, quoi. C'est une loi de relationnel d'amour qui est universelle.
C'est philosophique, quoi, pour des lois de la nature.
Et là, tu repères que disons, oh là là, c'est dramatique, ils plaisent à leur venir, tout le monde.
Ils se mettent dans le nez, non, il faut quand même que je. Écoute, si tu m'aimes, il faut quand même qu'ils viennent bien. Oh, il n'a pas la foi. Moi j'ai la foi, alors je prends la force de la foi et je vais lui donner la foi.
Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Un artiste, c'est quelqu'un qui prend une matière, un bout, un tas de bouts, va modeler, et puis il dit, oh, super, je vais en faire du sucette. Bon, du sucette. Et il modèle la pâte à modeler en sucette. Hein? Mais c'est son inspiration, ce sera pas du sucette. Mais ça, en tout cas, bon, je peux le faire ça, l'artiste. C'est ça, là. Je prends du marbre de Carrare, c'est pareil, puis je fais une Vénus. C'est mieux que si je bloque, je ne raconte pas le marbre de Carrare, je préfère un grec et une Vénus qui font dans les barres. Bon.
oui. Enfin bref, je prends l'autre comme une matière transformable. C'est extraordinaire. C'est une relation éducative. La relation éducative, c'est une relation où moi je dis que je sais ce qui est bien pour lui. Et je vais travailler, c'est ça. Je vais travailler pour qu'il devienne mieux. C'est pas mauvais. Personne n'a dit que c'était mal. J'ai pas dit que c'était une très très mauvaise personne. J'ai dit que c'est pas de l'amour. Ça veut pas dire que c'est mauvais. Ok? Ok. Par exemple, quand je fais du sport, je transpire. Mais quand je transpire, c'est pas de l'amour. C'est de la transpiration. Mais ça ne veut pas dire que la transpiration, c'est mauvais. La transpiration, c'est bon. C'est toi qui me sors. Mais c'est pas de l'amour, ok? Donc là, c'est pareil, c'est très bon, mais c'est pas de l'amour. Alors, donc, il y a à un moment, c'est marrant parce qu'à un moment, il y a un phénomène comme ça.
Ouais, c'est comme ça, c'est grand. Comme je te sens, c'est désodorisant. Des comme ça. Marque et tout, elle est. C'est vrai, c'est ça le nom de fiancé.
Vous voyez, cette mutation de la colère à la. Extraordinaire. Elle est facile à repérer, c'est une des plus faciles à repérer. C'est une relation artistique. Attention, attention. Avoir une relation avec quelqu'un d'autre sous un mode artistique, c'est considérer l'autre comme une matière. Et que l'inspiration, c'est-à-dire la forme suprême du projet, c'est moi qui l'ai. C'est ça l'artiste. Le genre de sens est très fort. Je le traduis par cette marque. Il a traduit. La tête, le travers, le corps, c'est le but. C'est beau. C'est quelque chose qui porte très fort. Bon, et c'est ça, je porte quelque chose de très fort. Et l'autre, je l'aime, et du coup, je veux qu'il ait ma foi. Je veux qu'il ait ma foi. C'est marrant, tout. Alors. Bon. Vous sentez le truc, j'espère. D'ailleurs, si vous voulez, il y a même des étapes. Vous avez le tableau à cette colonne, là, qui est quelque part ici. Qu'est-ce qu'il n'a pas? Le tableau du bas. Le tableau du bas. Dans le tableau du bas, on regarde les structures d'intériorité, les dernières lignes. On avait fait la série, justement, pour distinguer les différentes structures d'intériorité. Donc, les différentes structures d'intériorité sont 1. Le point de vue de l'amour, qui est là, structure d'intériorité. 2. L'intériorité artistique. 3. L'intériorité de la lumière, de la bodéité. 4. L'intériorité métaphysique, l'intériorité religieuse. Ok. Alors. Et vous voyez tout de suite qu'on va reconnaître à travers ça un certain nombre de choses. La structure d'intériorité de l'intériorité artistique a elle-même, celle-ci, là, la deuxième, elle a elle-même, comme vous le voyez, plusieurs étapes. Puisque à mesure que vous avancez dans les colonnes, vous arrivez à des étapes de plus en plus. Vous voyez, au début, la structure d'intériorité artistique, voilà, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne, cinquième colonne. Sixième et septième, c'est déjà spirituel. Donc si, quand c'est la sixième et septième colonne, c'est que ça a déjà commencé à augmenter ici. Hein? Or, on avait déjà vu les structures d'intériorité. Donc, j'ai pas tellement envie de revenir sur les structures d'intériorité. Vous avez une série de cassettes très intéressantes. Par quelqu'un que je connais très bien. Qui a expliqué ce que c'était que les structures d'intériorité, selon les reconnaissait, quoi. C'était il y a 2 ans. Et c'est très intéressant de regarder les structures d'intériorité. Parce que ça, c'est un discernement qu'on doit avoir sur soi-même. Ça, c'est Socrate qui dit, tout commence avec la connaissance de soi. Sinon, tu es une poubelle. Alors, la structure d'intériorité, vous voyez ? Voilà. Bon, dis-moi, dis-moi, là, je sens que...
Prise de thème.
Il y a un truc que tu ne puisses pas, c'est ça ? Ouais. Tu trouves que c'est trop compliqué, c'est ça ?
Je ne sais pas dans quel sens il faut le dire, ça me prend la tête.
Structure d'intériorité artistique. L'intériorité artistique, c'est là.
Il faut que je le lise comme ça.
Voilà, et l'intériorité artistique, ça va jusqu'ici, c'est tout ça. D'accord ?
Je fais ça.
Ça, premier degré. Quand ça mûrit.
Voilà.
Là, ça déjà commence à devenir spirituel, là, déjà.
C'est ça, là.
Ouais. Donc, ici, au niveau du repérage, c'est seulement les cinq premières colonnes de la structure d'intériorité du point de vue de l'artiste. Voilà.
Merci.
Alors, vous voyez, par exemple, au départ, vous êtes en colère, c'est très fort du point de vue disposition, sensibilité. C'est par les qualités de votre vie intérieure que vous reconnaissez un degré de profondeur de vécu dans l'ordre de l'amour. Donc, les qualités, c'est le vécu intérieur. Les qualités ou habitus. Hein? Donc, vous repérez l'habitus artistique à ce qu'au départ, vous êtes sensible à ce que vous avez quelque chose de grand et de beau, que vous pouvez donner à l'autre parce qu'il ne l'a pas. Vous voyez qu'il bouffe les ongles et vous dit « Ah, moi, je ne me bouffe pas les ongles, j'ai cette force, je vais lui donner cette force. » Vous êtes sensible. Vous sentez, il y a une disposition en vous. Vous sentez que vous allez pouvoir lui donner quelque chose. Ce n'est plus la revendication, c'est la force. Vous sentez disposé à donner quelque chose pour qu'il soit mieux, selon votre inspiration. Si c'est votre inspiration qui est le moteur de la relation, vous comprenez bien que c'est votre moi-je qui est le moteur de votre relation. Donc ce n'est pas l'autre qui est le moteur de votre vécu. Donc ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est uniquement quand c'est l'autre qui est le moteur, la forme, la détermination profonde, la locomotive de ce que vous faites. Parce que la forme là, elle vient de vous, elle s'impose à la matière qui est l'eau. Je crois que c'est clair. Le deuxième état, c'est que vous essayez de réfléchir. Vous sentez que ça ne suffit pas d'être... Vous sentez que ça ne suffit pas... De vous sentir disposé d'avoir cette force quand c'est qu'elle n'y a pas, mais vous sentez aussi qu'il faut lui exprimer la chose à travers un langage qui correspond à une intelligence du cœur. Et c'est là que je vais dire, le langage n'est pas la même chose. Au départ, on dit ah, vous vous plaisant. Deuxième étape, un mois après, à dire si tu m'aimes, tu sais, je crois qu'on pourrait faire quelque chose. Et intelligemment, avec l'intelligence du cœur, faites un petit chantage affectif merveilleux en disant, toi par exemple, tu manges tous les ongles, et moi du coup, et c'est par amour mutuel tout ça, et moi du coup, bah, j'essaierai de mettre moins de rimmel. Parce que je sais que tu n'aimes pas les pots de peinture. Et avec l'intelligence du cœur, vous dites avec la plus de douceur. Déjà, la colère commence à disparaître. Mais la force est là, hein. Attention. C'est vous l'artiste. L'artiste, il veut aller jusqu'au bout. Tant que l'œuvre n'est pas réalisée. Alors, il y a un troisième moment où, par rapport à ce genre de choses, puis ça se généralise d'ailleurs, où c'est presque instinctivement qu'on va trouver de nouvelles forces pour justement transformer l'autre. On va croire que ça y est, on y est. Ensuite, vous avez le point de vue du jugement pratique. Puis enfin,
la volonté d'efficacité contre des identités. Vous voyez, alors ça, c'est pas contre la même chose que la colère artistique s'applique. C'est des étapes un petit peu différentes, bon, mais je crois que je préfère que vous vous référiez à notre travail qu'on avait fait il y a 3 ans, parce que, en plus, c'est très intéressant, c'est marrant comme tout, de reconnaître ça. Hein? Ou alors, si vous préférez, au départ, c'est des choses extérieures, philosophie naturelle, ensuite, c'est des choses plus au niveau psychologique, au niveau intérieur, etc., philosophie du vivant. Puis ensuite, c'est des choses qui sont plus philosophie de l'esprit incarné, hein, qui sont tous, qui sont plus liées au rayonnement vis-à-vis de l'extérieur. Et puis ensuite, plus au dévoilement des profondeurs de la personne. Hein. Ouais, l'esprit, finalement, il se planque toujours. C'est que quand on s'approche, je ne sais pas, ça réveille je ne sais pas quoi, d'abord l'agressivité, puis maintenant, comme il y a un phénomène artistique, et ça va mieux, ben c'est l'angoisse. C'est l'angoisse hein, qui apparaît là souvent. Hein. Alors du coup, dans cette étape-là, on se dit, mais si l'angoisse est là, c'est qu'il ne trouve pas son identité profonde, la personne n'est pas là. Donc on cherche à réveiller la personne. Ben, il vient, mais c'est l'éducateur qui joue là. Bon, j'espère que vous comprenez en tout cas ce que c'est que ce degré-là. Il est très 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 facile à reconnaître. Et c'est très très important, hein, parce qu'on est malheureusement aussi, ben voilà, moi je l'aime, donc je vais le changer. C'est à lui de changer, pas moi. Moi, mes habitudes, elles sont bonnes. Lui, ses habitudes sont mauvaises. Donc, c'est à lui de changer. C'est clair. Pourquoi ? Parce que, ah non, je ne veux pas remettre en question mon identité néo-formée. C'est-à-dire ma personnalité d'autodéfense, ma personnalité psychologique. Je ne veux pas la remettre en question. Sinon, je me trouve sans défense. Se retrouver sans défense, c'est ça l'amour. Hein. Ah, je ne veux pas me retrouver dominé, comme je disais, c'est-à-dire que c'est pas une vie, c'est parce que c'est l'amour. L'amour ne fait pas que c'est dominé, mais l'amour fait que tu acceptes de rien recevoir, puisque tu te donnes toi-même. Tu n'as plus aucune défense, puisque tu as une totale dépendance. Tu n'acceptes pas la totale dépendance. Si tu n'y arrives pas, si je veux bien, mais j'y arrive pas, ça prouve que ta personnalité est une personnalité artificielle. Je crois que c'est ta personne, c'est pas ça, heureusement. Bon, enfin bref. Alors, j'ai envie, vous voyez, au départ, c'est arrête de bouffer les ongles, et ensuite, c'est bon, on va se donner la foi. Il faut quand même que tu prennes l'artiste et tout ça, et tout ça plus profond que ça, c'est l'habitude. Très bien. Ensuite, vous avez l'étape suivante, c'est le point de vue donc de la coopération. C'est que du coup, la coopération. Bon, une fois qu'on est présentable, il est présentable. Nous sommes présentables grâce à une mutuelle éducation. Et du coup, ça va à peu près. Et du coup, il ne faut quand même pas, on ressent toujours, quelque part, parce que ce degré-là ne supprime pas les points de vue politiques. Ne supprime pas les degrés d'air précédents, je vous le rappelle. Les degrés précédents sont toujours présents. C'est pas parce que j'ai crevé un plafond que du coup, les autres, je ne ressens plus. Ah, j'ai toujours les autres degrés qui sont là, actifs. Ils sont plus ou moins à l'état potentiel, à l'état actuel. Bon, puisque je suis présentable, eh bien voilà, on va faire quelque chose ensemble. C'est pas moi qui vais faire quelque chose sur lui, elle qui va faire quelque chose sur moi, mais nous allons faire quelque chose ensemble. On va pas se replier sur nous. Vous voyez, sentiment d'injustice,
cette force, cette fois-ci, c'est à deux, et on va faire quelque chose ensemble.
Nous allons organiser un boom.
Un boom entre l'Aveyron et la Lozère. Et c'est nous qu'on va l'organiser. On va le faire ensemble, tout notre travail, l'itinéraire, tout. Comment s'appelle ça, la manger, etc. On se téléphone, on organise tout. On fait un projet, comprenez? Par contre, seulement, le service de notes. Qu'est-ce qu'on s'entend bien? Ah, on s'entend bien, hein, ça a bien marché. Il y a ça, pour la préparation, après, cette chose. Je peux être arrivé, te foutre sur la lèvre. C'est pas grave. Non, je vais pas te foutre sur la lèvre. Un peu. Non, mais vous voyez bien, qu'est-ce qu'on s'entendait bien quand on a fait ensemble cette histoire? On a été ensemble. Faire un voyage humanitaire en Bosnie-Herzégovine, extraordinaire, extraordinaire. Nous sommes allés ensemble, je sais pas quoi, moi, en Lituanie, etc. On a crevé le mur de Berlin, etc. C'était tout extraordinaire. On était partis, on était au milieu de la mitraille entre les soviétiques, les machins, etc. On était là tout dans le... Et on agit. Non, mais c'est vrai, les amitiés qui se nouent lorsqu'on fait quelque chose ensemble, on fait des projets ensemble. C'est à ce moment-là qu'on dit, ouais, et on pourrait faire, pourquoi ensemble? On forme une famille ensemble. On pourrait essayer. C'est un projet politique, former une famille. Bon, c'est le centre de gravité, là. Voyez bien. C'est des projets qu'on fait. On fait plein de projets. On prépare des trucs qui correspondent, si vous voulez, pas tellement à l'unité de frontage, mais de faire des projets. Une coopération. On va coopérer ensemble pour faire une œuvre. Vous voyez, ça c'est une étape, elle est facile à repérer aussi. C'est pas tout à fait, c'est pas mal. Hein? C'est pas mal, on est d'accord, hein? Mais c'est pas, c'est une étape, et c'est une voie, pas de garage, mais c'est une voie de stabilisation qui permet à l'amour ensuite de reprendre plus tard. Pour l'instant, si tu veux, on peut pas dire que c'est un degré dans l'ordre de l'amour, mais en tout cas c'est un plafond à creuser. À un moment donné, il faut savoir que l'amour, c'est pas ça. Il y a des gens qui se marient en disant « c'est extraordinaire, nous nous sommes rencontrés dans la réga que nous avons organisée entre Cassis et Tombouctou, et Dieu sait que c'est très puissant de faire de l'amour. Et mais néanmoins, il y a ma meilleur moyen de se connaître, c'est de travailler ailleurs. » Parce que déjà, c'est un boulot, hein, c'est les voiles, les machins, c'est ça, c'est clair. Moi, un jour, je suis monté sur un bateau, comme ça, avec des gens qui étaient des spécialistes, tout ça, c'est des gens de ma famille, tout ça. Je me disais, ah, non, ouais, c'est bien, mais pourquoi je démène comme ça? Comme ça, je me suis gagné sur la côte du bateau.
T'es fou!
Moi, je connaissais rien. Alors, bon. Enfin, bref, le... Alors quand tu fais un voyage, comme ça tu apprends à regarder. Pourquoi? Parce qu'on fait quelque chose ensemble, on fait un voyage ensemble, ça implique la maîtrise des éléments, la maîtrise de la nature, la maîtrise de la matière, etc. etc. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on s'est bien entendu? Waouh, on s'est bien entendu pendant ce voyage, pendant ce... Voyez bien, hein, on fait une œuvre humanitaire, j'en sais rien ce qu'on peut faire, on peut faire un pèlerinage, un coup, ce que tu veux. Enfin, on fait quelque chose. Vous voyez bien ça? C'est des projets. Alors, le fait de faire ça, ça, et puis du coup on va se marier. Mais non. Parce que quand tu te maries, tu ne fais plus rien. C'est plus du fac serré. Vous voyez, fac serré. Fac serré. C'est de l'ingérer. Le facturer, c'est une action mutuelle face aux éléments, pour intégrer les éléments. Tandis que l'ingérer, c'est une action intérieure où j'intègre l'autre et à travers l'autre, je me plonge dans l'unité spontanée. C'est un agir d'amour intérieur. C'est tout à fait différent. C'est le mouvement, c'est un mouvement qui n'a pas la même direction. Il y a un mouvement qui est au fond, centré. Pète, l'autre centrifuge. C'est bien.
Vous voyez bien que le facere et l'agere, facere ça veut dire faire en latin et agere ça veut dire agir. Mais le agere en latin, c'est un agir très intérieur, amoureux. C'est intérieurement, nous vivons autre chose que lui et moi. Nous vivons l'unité. Donc, il ne faut pas se marier, il faudrait être qu'on s'est bien entendu au moment où on a fait partie du commando. Hein? Voilà. Alors, l'étape suivante, alors, l'étape suivante, 17 degrés, c'est celle qui correspond à, si vous voulez, la structure d'intériorité que j'ai appelée tout à fait en bas, la vitalité intérieure de l'âme. La vitalité intérieure de l'âme, elle est liée au point de vue de l'origine et de la fin, donc à la mémoire ontologique, n'est-ce pas? Et cette mémoire ontologique, bon, eh bien, elle est liée, elle va être liée à quelque chose qui relève du dynamisme vital. Donc, le dynamisme vital, il est inscrit dans le point de vue, donc, de l'âme. Le point de vue, vous voyez, c'est de plus en plus subtil. Le point de vue de l'amour est lié à la volonté profonde, à la loi éternelle de l'amour et au cœur. C'est pas tout à fait la même chose. Et pourquoi est-ce que c'est une expérience de puissance? Parce que, effectivement, lorsque je suis capable, en prenant l'autre dans une étreinte d'amour, au fond, parce que tout ça relève quand même d'un appel à l'amour, alors à ce moment-là, à un moment donné, je comprends que c'est toute la lumière intérieure de mon âme qui doit illuminer le corps de l'autre de l'intérieur. Il faut pour ça, bien entendu, que j'ai atteint en moi cette lumière qui actue mon diaphane intérieur. Si je suis capable d'atteindre en moi cette lumière qui actue mon diaphane intérieur, c'est-à-dire cette lumière vivante qui fait que j'ai une unité intérieure et que c'est moi qui vis, je suis capable donc à un moment de le toucher, puis de m'y engloutir, puis de m'y écouler délicieusement. Une fois que je suis capable de m'écouler délicieusement dans mon intériorité, dans cette lumière vivante, qu'on appelle l'âme, dans sa pointe, dans sa source, dans son centre, alors je peux atteindre le centre de la lumière vivante qui actue le diaphane intérieur de l'autre. Et je vais rejoindre, comme l'eau va rejoindre l'eau, l'âme de l'autre, pour faire une seule lumière. C'est très intérieur, c'est très physique, c'est très extraordinaire, et ça donne une force. C'est très beau. Moi j'aime bien ça. J'aime bien. Alors, comme vous n'y comprenez rien, comme vous voyez, disposition, poiesis, excis, santé, lumière, télèque actif, phronésis, évidemment. C'est pas du chinois, c'est du grec. Hein. Mais en fait, c'était. Oui, en fait, bon, est-ce que vous voyez, je pense que ça, c'est une étape qui est quand même plus intime, déjà. Et cette étape d'intimité dans l'ordre de la lumière, tu vois, cette intimité dans l'ordre de la lumière, c'est-à-dire on a des relations intimes, on est bien ensemble, c'est une étape où on atteint quelque part dans l'autre qui est plus profond, au point de vue de sa vie, et pourtant on n'atteint pas encore l'esprit. On n'atteint pas encore l'être. On n'atteint pas encore le point de vue de la personne. Parce que la source de lumière vivante qui est le centre de l'âme, c'est pas ça qui fait la dignité de la personne. Mais c'est le point de vue qui. C'est pas ça. C'est le fait qu'il soit contemplatif, c'est le fait qu'il soit capable d'amour, c'est le fait qu'il ait la liberté dans l'ordre du don, c'est le fait aussi qu'il ait la grâce sanctifiante s'il l'a, c'est le fait qu'il soit à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais s'il le sait, même s'il ne le sait pas, et c'est le fait qu'il existe et qu'il est un être participé d'être produit. Voilà les cinq dignités qui font qu'une personne est une personne humaine. Mais cette lumière, elle appartient à une fréquence universelle dans l'ordre de la lumière. C'est toujours pareil, c'est la bodhéité. Je rejoins à travers ça ce qu'on appelle dans le bouddhisme le petit véhicule, n'est-ce pas ? Avec ce petit véhicule, je peux rejoindre le petit véhicule qui est en face de moi, nous faisons ensemble un nouveau véhicule, et c'est comme ça qu'on pourra passer au phénomène du grand véhicule. Vous savez bien. Et c'est un phénomène d'expansion dans l'ordre de la lumière. Mais voyez bien que ici, à ce moment-là, on atteint du coup pas quelque chose qui doit être contemplatif, ni métaphysique, voyez, mais quelque chose qui relève de l'idée pure, de l'idée en soi, du tout, de la lumière. C'est une relation idéalisée. Alors tout le monde ne vit pas comme les bodhisattvas cette relation en disant je plonge dans les 12 chakras, je déboutonne ces chakras, je rentre dedans, chakra contre chakra, lumière contre lumière, grand véhicule, hop, on redevient ensemble un bodhisattva complémentarité, etc. etc. Heureusement que vous ne faites pas ça parce que sinon. Hein? Évidemment, c'est sûr. Heureusement que vous ne faites pas ça parce que. Enfin, pas vous, ne faites pas ça. C'est après pour reboutonner les chakras, je sais pas. Alors là, ça c'est très long de reboutonner les chakras. Ne vous faites jamais déboutonner les chakras, jamais ne faites ça. Je vous jure que je fais ça. Celui qui fait ça, mais alors là, vas-y. Ça m'étonnerait qu'il puisse trouver quelqu'un, parce qu'on n'en trouve plus maintenant. Et les pauvres curés, ils ont plus le temps. Alors. Et en plus, ça pue. Alors, donc, c'est pas mieux. Alors, idéalisé. Et du coup, c'est le point de vue romantique. Et oui. Alors. Tu ne le sais pas. Alors, reste dans cette insignorance.
Bonne question.
C'est quand tu vas voir un médium, un guérisseur, il t'impose des mains, lui, il t'ouvre des centres corporels, etc.
Et il le dit, je vous déboute des chakras.
Non, qu'il le dise.
Et il en dit à quelqu'un.
Je oui, d'accord. Il te fait monter en fait une énergie kundalini, à partir de la tienne propre d'ailleurs. Et puis il déboutonne des nœuds corporels, c'est-à-dire des liens entre le point de psychique, métaphysique de ton âme et ton corps. Le résultat, c'est qu'il y a des phénomènes de. Moi, j'aime bien dire déboutonner ou comme fermeture d'éclair, si vous voulez la fermeture d'éclair. Alors, peut-être que quelque part, ça soulage dans un premier temps, mais du coup, tu es éventré. Métapsychiquement parlant, tu es éventré. Ça se voit pas, mais. Exact, bien sûr.
Mais je l'ai vécu de
faire parler. Mais. Ah, ben oui! Moi aussi je l'ai vécu, mais.
3 ans de méditation bouddhiste.
Oui, mais arrête. Non, non, c'est trop horrible ce que tu dis. Je... Alors, vous voyez, alors c'est ce qui a marqué. Au début, vous voyez, vous sentez que dans l'autre, il y a des mouvements qui vous attirent, des mouvements intérieurs, son vécu intérieur, pas seulement son apparence extérieure, vous voyez bien. Mais. Si sa vie intérieure commence à vous attirer, vous commencez à ressentir ce qu'il ressent, n'est-ce pas ? Dans un deuxième temps, vous êtes, c'est l'adaptation aux besoins, la beauté, la disposition à l'inspiration. Ici, vous découvrez les premières beautés intérieures de l'autre et vous vivez ces beautés intérieures. C'est aussi quelque chose qui relève de l'amour idéalisé. Parce que la beauté est un miroir de ce que vous vous représentez vous-même sur l'autre. Vous savez, si pour parler simplement, dites, ben voilà, moi ce qu'il me faudrait, c'est un type, bon, pas forcément beau, pas forcément, faut pas quand même pas être exigeant, mais intelligent, j'aimerais bien. Et puis, toujours compréhensif, bon, délicat, mais en même temps, pas nouille, hein. Là, et puis je me fais tout un truc, toi. J'idéalise. Et puis un jour, je rencontre François. Et je dis, c'est lui.
Ah. Ah. Et puis, tu passes le premier degré, tu arrives au 18e degré, c'est lui. C'est vraiment, c'est lui. Tu ne peux pas te rendre compte que tu t'es trempé avant d'avoir crevé le 18e plafond. Impossible. Il faut savoir.
Mais...
Alors, en fait, tu as projeté ton idéal sur lui. Tu crois qu'il est comme ça. Et 5 ans après, tu dis, c'est plus le mec que j'aimais. Il a changé. La grosse blague. Il n'a pas changé du tout. C'est le même mec. Le même cœur, la même intelligence, le même être, la même origine, la même image de Dieu, la même vocation, la même aspiration, la même personne. Pareil, c'est toi qui as changé, c'est tout. Alors, embrasse-lui les pieds, parce que grâce à lui, t'aperçois que, quand même, des écailles te sont tombées des yeux. Et c'est pas mauvais. C'est évident, ça. C'est évident, c'est le bon sens. Bon, alors, c'est l'instant qui était sourde qui parlait comme ça. Alors, vous comprenez bien. Alors, c'est ça l'idéalisation. Alors, l'idéalisation, ah, mais on est bien, ouais, mais c'est vrai. Du coup, vous comprenez. Alors, du coup, on rentre dans une relation romantique. Et c'est là qu'apparaissent les fameux sentiments du moi. Bon, que je vous rappelle, n'est-ce pas ? Il me valorise. Il me sécurise. Il me... Oh. Grâce à lui, j'ai trouvé mon autonomie. Plus besoin de papa, maman. Allez, dégagez, plus besoin de vous. Autonomie. Il me donne, il me sécurise, il me valorise. C'est romantique, vous comprenez? C'est extraordinaire, les sentiments du moi. Sentiments. Alors, je vous rappelle ce que c'est que les sentiments du moi. Hein. Attention. Alors, en même temps, bon, non, je laisse tomber les sentiments négatifs, mais je vous rappelle un truc très important. Voilà le plafond qu'il faut crever, le 20e. Il faut crever ce plafond. Rendez-vous le mois prochain. Il faut le crever, celui-là. Sinon, je ne rentre pas dans une amitié humaine. Parce que tout le but ici, c'est d'arriver à la fraternité, hein. Et de la fraternité, je peux passer à l'amitié sponsale. Et là, ça devient humain. Déjà, la fraternité, entre guillemets, peut l'être, mais... Là, ça devient humain, là. Alors, avant, ça ne l'est pas. Quand c'était animal, c'est-à-dire psychologique, avec les 11 passions, il y avait une aspiration par la colère à crever le plafond du point de vue animal, mais comme je n'avais pas de maturité, double barre, 6-6-6, n'est-ce pas ? Là, double barre, puisque double barre, ça veut dire 6. Donc, c'est comme sur les codes, hein, c'est comme sur les produits sur Colgate, Palmolive et Coca-Cola. T'as vu ? Le code barre. Bon, t'as bien double barre, double barre, double barre. T'as 6-6-6 partout. Bon, bref. Bref, enfin, ça, c'est un autre problème. Alors, tu passes, tu aspires, t'as pas la maturité, tu peux pas. Tu vois, tu passes à l'artistique, au politique, à l'intimité, au fraternage. C'est déjà pas mal. Si je puis dire. Mais comme tu n'arrives pas à crever le plafond, tu retombes. C'est ça, le 18e de... C'est ça, le 19e degré, disons. Le passage du 18e au 19e. C'est que tu crèves, tu n'arrives pas à le crever, le plafond. Et du coup, tu retombes dans le fameux 19e degré, qui est le point de vue, au fond, du passage du romantique... au passage du substitut, j'allais dire, de la relation fraternelle. C'est un substitut. Bon. Et c'est là que le sentiment de valorisation, de sécurité, d'autonomie vont apparaître. La vie sentimentale, la vie des sentiments du moi, avec ces 6 sentiments du moi, bon, sécurité, angoisse, autonomie, aliénation, valorisation, culpabilité. Voilà les 6 sentiments. Les 6 sentiments du moi qui sont en nous sont des conséquences. Parce que je voudrais enfin rentrer dans le monde de l'humanité extatique, contemplative, dans la liberté du don. Je n'ai pas cette maturité affective. Comme je n'ai pas cette maturité, je rebondis, je me retrouve dans le point de vue sentimental, romantique, qui implique la domination des sentiments du moi. Mais vous sentez bien que les sentiments du moi sont une répercussion d'un appel spirituel dans le point de vue psychologique. Donc on retombe, ça veut dire que les animaux n'ont pas les sentiments du moi. Mais n'empêche que c'est au niveau animal que retombe l'aspiration spirituelle de celui qui n'a pas la maturité spirituelle. Est-ce que c'est clair? Bon, je vois que c'est pas si clair que ça. Mais c'est très important. Nous verrons donc la prochaine fois comment on passe au 20e degré. Et on va regarder cette fois-ci très rapidement les 13 degrés, dernier degré de l'amour, très rapidement parce que ici tout le monde les connaît par cœur. Hein, puisque nous avons décollé depuis longtemps tous ces miasmes marécageux. Hein. Voilà. En tout cas, quand quelqu'un vient me voir pour le mariage, je peux vous dire que s'il n'a pas atteint, crevé au moins les 19 premiers plafonds, je lui ai dit, vous ne vous mariez pas. Vous pouvez voir Tartampion, Mirobol, Sartinov, mais pas moi. Pas moi. Moi, je bénis pas un monstre. Désolé, vous êtes prié de couper d'abord les sarments du bas et après, on verra. J'espère que c'est bien. Je ne vous ai pas trop bassiné. Si vous voulez bien, nous allons passer maintenant à la prière.